My dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, c'est vraiment extraordinaire de vous voir tous ensemble ici. Vous venez de différentes régions du pays et nous sommes également rassemblés autour de la Terre ce soir grâce à cette transmission satellite à travers l'Église. Et nous pouvons nous rassembler pour participer à ce genre d'événement et c'est vraiment extraordinaire. Un événement glorieux s'est produit lors de la conférence générale du mois dernier. Pour la plupart du monde, cela est passé inaperçu. Mais pour les personnes qui connaissent et aiment la vérité, cela a été aussi inoubliable que le bruit de 10 000 tonnerres. Essayez de vous rappeler la dernière session. Du cœur du tabernacle, nous sont parvenus ces accents familiers. Seigneur, merci pour le prophète qui nous guide en ces derniers jours. Ô Dieu, donne pour la conquête ton constant soutien, ton secours. Tout à coup, les hommes et les femmes, les garçons et les filles, réunis dans le centre de conférence, les foyers et les églises de la terre entière, se sont élevés avec recueillement et reconnaissant des bénédictions mentionnées dans ce cantique. Nous nous sommes levés reconnaissant que l'évangile de Jésus-Christ a été rétabli, que Dieu le Père et son Fils bien-aimé aient parlé des cieux, que Joseph Smith a été un prophète et que le président Hinckley soit le prophète du Seigneur sur la terre aujourd'hui. C'était une expérience digne de la Pentecôte, une époque où les citoyens du royaume de Dieu, agissant sous l'influence du Saint-Esprit, ont manifesté leur foi. Plus tôt ce jour-là, le président Hinckley a parlé avec tendresse et gratitude de son âge avancé et de la santé qui en résulte. Exemple constant de fidélité, il a reconsacré sa vie au dessein du Seigneur. Il a dit, « Le Seigneur m'a permis de vivre, je ne sais pas pour combien de temps encore, mais quelle que soit la durée, je continuerai de faire de mon mieux pour accomplir la tâche présente. Nous continuerons tant que le Seigneur le voudra. Lorsque viendra l'heure de la succession, la transition se fera en douceur et sera conforme à la volonté de celui dont c'est l'Église. Ainsi, nous allons de l'avant avec foi. Et la foi est justement le thème dont j'aimerais discuter ce matin. Son message était opportun et inspiré. C'était un rappel spirituel de ce que la vie est vraiment et de la manière dont les enfants de notre Père céleste peuvent surmonter tous les obstacles. Il s'adressait à un monde baignant dans le profane, l'incroyance et le péché. L'étude des matières profanes contribue grandement à l'amélioration du monde. La connaissance des matières profanes au plus haut niveau engendre une atmosphère de vertu, de responsabilité morale, de vérité spirituelle et de foi. De nos jours, on parle beaucoup de sociétés profanes. Les gens et les pays s'enorgueillissent d'être profanes, d'être portés sur les choses du monde, celles qui ne sont pas considérées comme religieuses, spirituelles ou sacrées. Une grande partie du monde aujourd'hui considère le profane comme essentiel à un gouvernement équilibré, juste et ordonné. Ainsi, il est déconseillé de parler de religion dans les forums publics. Les droits civiques dépendent de tribunaux et de procédés législatifs. Les hommes et les femmes recherchent volontiers des solutions et des recours par des voies juridiques. À l'extrême, une société profane ne tient pas compte du concept de la vie éternelle, mais toutes les choses dans le contexte du monde naturel et par conséquent est encline à des œuvres sans foi. Il faut de la vigilance et de grands efforts pour être des hommes et des femmes de foi dans un monde profane. La nature humaine est telle qu'au début, l'homme imite puis embrasse ce qui le rassasie ou le gave. Le profane a ce genre d'effet sur les gens aujourd'hui. Non maîtrisé par la foi au Christ, le Rédempteur de l'humanité, ce monde profane ou naturel produit des hommes et des femmes orgueilleux, obsédés par eux-mêmes, trop compétitifs, réactionnaires, farouchement indépendants, motivés par leurs désirs, leurs appétits et les louanges du monde. En général, l'homme naturel est une créature impénitente, un être qui marche à la lumière de son propre feu. Une telle personne s'adapte à la nature des choses qui l'entourent, prenant ses repères et ses appuis sur un monde déchu. En bref, les hommes qui sont dans l'état de nature sont sans Dieu dans le monde. Étant donné que le profane ne fait généralement pas cas de la perspective éternelle, il peut, avec le temps, mener à l'incroyance. Comme l'a dit Wolfhard Pannenberg, professeur en théologie à l'Université de Munich, et je cite, « Un climat général profane ébranle la confiance des chrétiens en la vérité de ce qu'ils croient. » Dans un environnement profane, même la connaissance rudimentaire du christianisme y est en déclin. Le problème n'est plus le rejet des enseignements chrétiens. De nombreuses personnes n'ont pas la moindre connaissance de ces enseignements. Plus l'ignorance quant au christianisme est grande, plus cela nuit au christianisme. La difficulté est exacerbée par la relativisation culturelle de l'idée même de vérité. Pour beaucoup, la doctrine chrétienne n'est qu'une opinion avec laquelle on peut, ou non, être en accord, suivant ses préférences ou ses besoins personnels. L'ordre social profondément profane engendre un sentiment de futilité. Fin de citation. La foi au Christ est remplacée par la foi en l'homme. Non seulement on ne traite pas dans les discours publics et les réflexions personnelles les questions d'où venons-nous, où allons-nous après cette vie, et qu'est-ce qui régit réellement l'ordre actuel des choses, mais on le considère comme inutile. Cet état d'incroyance devient une calamité aux proportions colossales. Notre Père Céleste savait que cela arriverait. Le rétablissement de l'Évangile a ranimé la foi en Jésus-Christ, le Créateur, le Sauveur et le Rédempteur. Il a restauré la compréhension exacte du but de la vie. En 1831, il a été dit aux enfants de notre Père Céleste, c'est pourquoi, moi le Seigneur, connaissant la calamité qui s'abattra sur les habitants de la terre, j'ai fait appel à mon serviteur Joseph Smith, fils, lui ai parlé du haut des cieux et lui ai donné des commandements afin que la foi grandisse sur la terre. Avant la fondation de ce monde, avant l'attribution d'une place aux éléments de l'univers, les hommes et les femmes avaient la vie, le mouvement et l'être. La pensée profane que la vie n'est rien d'autre que de la biologie nie la vérité essentielle, la connaissance subconsciente demeurant dans les tréfonds de notre âme vivante, que l'homme était aussi au commencement avec Dieu. Ce fait est immuable et irréfutable. Le paradis terrestre, avec nos premiers parents, Adam et Ève, est venu par la suite, afin que l'homme puisse devenir un être complet, évolué et rendu parfait, grâce aux expériences de la condition mortelle et à la rédemption du Christ. L'époque des patriarches, l'avènement divin de notre Sauveur et son expiation incomparable au midi des temps et au temps du rétablissement de toutes choses, qui a commencé en 1820, ont établi le cadre dans lequel hommes et femmes, garçons et filles, pouvaient à nouveau diriger leur vie et leur environnement par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Mes chers jeunes amis, vous êtes à la jonction de ces événements mondiaux. Le passé n'est qu'un prologue et ce qui a été doit encore arriver. Ce qui peut arriver, ce qui doit arriver, est que la foi et les œuvres qui l'accompagnent ralentissent le déferlement de la croyance. C'est ce qui vous incombe ici-bas. C'est votre devoir sacré. Notre maître a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sévenet, rien ne vous serait impossible. Le président Hinckley nous rappelle, tout compte fait, la seule vraie richesse de l'Église est la foi de ses membres. C'est d'une foi plus grande que nous avons besoin pour faire progresser cette grande œuvre. Sans cette dernière, l'œuvre stagnerait. Avec la foi, personne ne pourra l'empêcher de progresser. Ce genre de foi est plus qu'une attitude, plus qu'une croyance, plus qu'un témoignage de ce qu'on ressent ou connaît. La vraie foi, celle dont a parlé notre prophète bien-aimé, engendre la justice dans cette vie et le salut dans celle à venir. Elle est centrée sur le seul Dieu vrai et vivant et sur Jésus-Christ qu'il a envoyé. Elle est basée sur la vérité, précédée de la connaissance et rendue parfaite par les œuvres. Elle permet aux humains de comprendre et de se comporter comme des enfants de notre Père céleste. Cette foi est le premier grand principe directeur qui nous permet d'avoir du pouvoir, de l'emprise et de l'autorité sur notre manière de penser, d'agir, et sur le genre d'hommes et de femmes que nous sommes. L'apôtre Jacques nous donne la formule pour avoir une telle foi. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » La foi sans les œuvres est inutile. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. On entend beaucoup parler de référence aujourd'hui. Une référence est un modèle d'excellence ou d'accomplissement mesuré et jugé par rapport à des éléments similaires. Il y a quatre références qui peuvent aider chacun d'entre nous à savoir si notre foi personnelle au Christ est rendue parfaite par nos œuvres. Il s'agit des choix que l'on fait, du dévouement dont on a fait preuve, de l'obéissance que l'on met en pratique et du service que l'on rend. Je vais vous expliquer. Premièrement, la référence du choix. Les saints des derniers jours croient qu'ils doivent être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et vertueux. Ils recherchent tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Prenons l'exemple d'un jeune ancien que nous appellerons Bill. Il a appris cet article de foi à la primaire. Il y croyait à l'époque, il y croit encore. Il a cependant sombré un certain temps dans la pornographie. Il a succombé à ses attraits puissants et asservissants. Après chaque rencontre avec cet élément repoussant, il en était écœuré, honteux et se sentait sans valeur. Il a assisté à la conférence générale il y a quelques semaines. Pendant la session de la prêtrise, il a entendu le président Hinckley dire « Il n'est pas un homme, pas un garçon de cette vaste assemblée de ce soir qui ne puisse améliorer sa vie. » Et cela doit être fait. Après tout, nous détenons la prêtrise de Dieu. Associée à cette prêtrise est la grande obligation d'en être digne. Nous ne pouvons pas nous laisser aller à des pensées impures. Nous ne devons pas toucher à la pornographie. Nous ne devons jamais être coupables de sévices, quels qu'ils soient. Nous devons nous élever au-dessus de cela. Élevez-vous, ô homme de Dieu, et laissez ces choses derrière vous, et le Seigneur sera votre guide et votre soutien. Bill s'est décidé. Il est temps pour moi de manifester ma foi. Il est allé à son lieu secret, a récupéré les images obscènes, les films et les publications vulgaires, et les a détruits. Il a purgé sa bibliothèque de toute musique forte, bruyante et contenant des paroles malsaines. Il a effacé de son ordinateur tout lien de site pornographique, a installé un filtre protecteur et a placé son ordinateur dans un endroit bien en vue afin d'être plus fort et d'éviter de commettre à nouveau ce péché. Il a reconnu ses transgressions devant Dieu. Il a prié avec ferveur pour avoir la force de se repentir, pour éradiquer de ce mal de sa vie. Il a cherché de l'aide auprès de son évêque et de ses êtres chers. Dans son malheur, Bill a ressenti la douce assurance. « Mon fils, tu es sur le bon chemin. » Grâce à ses œuvres, sa foi est en train de s'affirmer et de se consolider. Il y a encore beaucoup à faire. Il faudra jeûner, prier, étudier les Écritures et passer par les pleurs. Un bon évêque sera une aide indispensable. La fidélité et les prières des parents et des êtres chers apporteront un soutien nécessaire. Toutefois, la référence démontre que Bill commence à exercer la foi qui produit le repentir. Il a fait le bon choix. Deuxièmement, la référence de la paix. Les saints des derniers jours croient tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle maintenant, et croient qu'il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. Ils croient au rassemblement littéral d'Israël et au rétablissement des dix tribus, que Sion, la Nouvelle Jérusalem, sera bâtie sur le continent américain, que les hommes et les femmes sont appelés de Dieu par prophétie et autorité divine pour accomplir cette œuvre. Le véritable dévouement est lié aux causes divines instaurées avant la fondation du monde. Des ancêtres justes s'y sont ralliés et ont donné leur vie pour servir les desseins de notre Père céleste. On nous a confié la tâche de continuer, de construire sur leur œuvre consacrée. Une histoire maintenant, que vous connaissez peut-être. En 1856, Robert et Anne Parker et leurs quatre enfants ont entrepris le voyage depuis l'Angleterre pour rejoindre les saints en Utah. Un prophète avait parlé. Leur tâche était de se rassembler au Grand Bassin et d'aider à la construction de Sion. Ils faisaient partie du convoi des charrettes Abraham MacArthur et avaient donc chacun une part de travail. Papa et maman tiraient la lourde charrette. Maxie, âgée de 12 ans, poussait, et Martha, âgée de 10 ans, prenait soin du petit Arthur, âgé de 6 ans. Ada, âgée de 1 an, qui faisait ses premiers pas, était transportée dans la charrette. Quelque part, dans le Nebraska, le petit Arthur s'est assis pour se reposer et s'est endormi. Une tempête soudaine s'est levée, le convoi s'est dépêché pour dresser le camp. C'est à ce moment là qu'ils ont découvert qu'Arthur n'était pas encore avec les autres enfants. Ils ont cherché pendant des jours, mais en vain. Le convoi devait avancer. C'était le moment pour Robert et Anne d'agir conformément à leur foi. Archer Walters a écrit ceci dans son journal le 2 juillet 1856. Le petit garçon de frère Parker est perdu. Et son père est retourné le chercher. Au moment où Robert partait, Anne lui a accroché sur les épaules un châle brillant et rouge et lui a dit, « Si tu le trouves mort, enveloppe-le dans le châle pour l'enterrer. Si tu le trouves vivant, tu pourras t'en servir comme d'un drapeau pour nous faire signe. » Elle et les autres enfants ont pris la charrette et ont continué d'avancer avec peine avec le convoi. Robert a refait les kilomètres de piste en forêt, appelant, cherchant et priant pour leur fils, livré à lui-même. Il est parvenu finalement à un comptoir commercial où il a appris que leur enfant avait été soigné par un forestier et sa femme. Le petit Arthur avait été malade à cause de la température et parce qu'il avait eu peur, mais Dieu avait entendu les prières de son peuple, ses parents. Chaque soir, sur la piste, Anne et ses enfants veillaient. La troisième nuit, les rayons du soleil couchant ont reflété la lueur d'un châle brillant et rouge. Cette brave mère s'est affalée pitoyablement sur un tas de sable. Exténuée, Anne a pu dormir pour la première fois depuis si longs jours et si longues nuits. Dieu avait vraiment été bon et miséricordieux. Leurs œuvres récompensaient leur dévouement et sanctifiaient leur foi. Et le cœur joyeux, les saints ont chanté « Tout est bien ». La petite Ada, ma grand-mère, est devenue une femme et a épousé mon grand-père Brigham Young MacMillan. Et voici la morale. Elle n'a jamais permis à ses enfants d'oublier qu'elle et sa famille ont traversé les plaines avec le convoi de charrettes à bras. L'histoire du châle rouge est devenue nôtre. Le patrimoine de leur foi est également devenu nôtre. Ainsi, nous continuons tous, et de grands obstacles disparaissent comme la rosée avant le soleil du matin. Voici ce que démontre la référence de ces premiers saints. Leurs œuvres étaient une référence en matière de foi, leur dévouement, un modèle à suivre par leur postérité. Troisièmement, la référence de l'obéissance. Les saints des derniers jours croient que grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. À présent, imaginons-nous un jeune couple représentatif de ce monde profane. David et Michel connaissaient cet article de foi bien avant de se connaître. Ils ont pourtant des difficultés que rencontrent beaucoup de personnes participant à cette diffusion. David et Michel ont entre 25 et 30 ans. Ils se connaissent depuis un certain temps. Ils sortent ensemble et sont amoureux. Néanmoins, ils sont indécis quant au fait de se marier et de fonder une famille. Doivent-ils repousser le mariage jusqu'à ce qu'ils aient terminé leurs études, jusqu'à ce qu'ils aient davantage d'argent, jusqu'à ce qu'ils aient réalisé certaines de leurs ambitions personnelles? Ils se posent aussi des questions face à la grimpée du nombre des divorces, des guerres, des conflits dans le monde et la surpopulation. Leur mariage survivra-t-il? Devrait-il faire venir des enfants dans un monde pareil? Ah, David et Michel, exercez votre foi. Souvenez-vous que le mariage de l'homme et de la femme est ordonné de Dieu, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, que des fils sont un héritage de l'Éternel, que la terre est pleine et il y a assez et même en réserve. Agissez selon ce que vous savez être vrai, et vos œuvres de justice rendront votre foi parfaite. Votre vie sera productive et merveilleuse. Suivez le bon exemple de vos parents. Ils n'avaient pas les moyens de se marier, mais ils l'ont fait. Eux aussi se sont souciés des guerres et des conflits, mais ils ont fait preuve de foi, et vous ont eu. Les exigences du mariage et de la vie de famille ne les ont pas détournés de leurs études, mais les ont enrichis. Comme pour leurs ambitions personnelles, ils sont absorbés en entier dans la joie par leur bien-être, le vôtre, celui de vos frères et sœurs et celui des petits-enfants. La vie n'a pas été facile pour vos parents. Ils ont dû s'oublier et économiser, faire avec ce qu'ils avaient. Eux aussi ont fait face à des problèmes et des situations qu'ils ne pouvaient résoudre. Mais ils savaient que le chemin ordonné par le Dieu Tout-Puissant décrétait d'avancer. Grâce à cela, vous êtes tellement plus forts. D'après les histoires qu'ils vous ont racontées des dizaines de fois, vous savez que leur vie a été une montée interminable, dans la montée comme dans la descente. Toutefois, leurs œuvres ont sanctifié leur foi. Ils sont plus âgés, c'est sûr. Leur pas n'est pas aussi leste, leur train de vie pas aussi intense. Leur aspect n'est pas ce que les publicitaires ont l'habitude de réclamer à grands cris. Toutefois, leur amour pour Dieu et celui qu'ils ont l'un pour l'autre est un profond reflet de respect et d'adoration. Les cicatrices de la vie les ont dotés de sagesse, de patience et de reconnaissance. Par de petits moyens, mais qui ont leur importance, ils ont développé une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, des choses qu'ils ne pouvaient pas voir auparavant. Ils ont néanmoins obéi. En faisant preuve de foi, ils se sont fait sceller au temple, ont eu la bénédiction d'avoir des enfants et connaissent à présent les vraies sources du bonheur. La référence démontre que l'obéissance suscite les bénédictions du ciel. Cela a été le cas pour vos parents et il en sera de même pour vous. Quatrièmement, la référence du service. Les saints des derniers jours croient en Dieu le Père éternel et en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Nous croyons que le Christ régnera en personne sur la terre, que la terre sera renouvelée et recevra sa gloire paradisiaque. Nous savons plus au sujet de la divinité qu'aucun esprit d'homme n'a pu concevoir, et ce que nous savons est vrai. De plus, nous connaissons les desseins de la divinité pour cette terre et tout ce qui l'habite. En raison de ce que nous savons et de ce que le Seigneur a placé sur nos épaules, la responsabilité sacrée de l'aider à réaliser cela, nous ne devons pas prendre à la légère notre appartenance à l'Église. Certains sont tentés d'être moins engagés par peur de paraître trop religieux. Ils considèrent l'Église comme une institution, mais pas comme un royaume. Ô jeunesse pure et fière, faites que l'œuvre de l'Église et du royaume de Dieu soit le centre de votre vie. Lorsque l'on vous appelle à l'œuvre, dites oui et faites de votre mieux. Écoutez l'exhortation suivante du Seigneur. Ne cherchez donc pas les choses de ce monde, mais cherchez premièrement à édifier le royaume de Dieu et à faire régner sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le 9 novembre, dans 4 jours à peine, cela fera 150 ans que les malheureux pionniers du convoi de charrettes à bras Willy auront pénétré avec peine dans la vallée du lac Salé. Ils ont connu de grandes souffrances et la mort. Les tempêtes et leur état affaibli avaient eu raison de beaucoup. Les sauveteurs en ont sauvé beaucoup plus. Levi Savage était l'une des personnes arrivées en ce jour. L'histoire rapporte ses œuvres de foi et de persévérance pour sauver les saints et les ramener en sécurité dans la vallée. Toutefois, son noble service n'a pas débuté dans les plaines enneigées du Wyoming. Ce n'était qu'un autre chapitre, peut-être le couronnement d'une vie consacrée au service. Levi s'est baptisé en juin 1846, à l'âge de 26 ans. En réponse à l'appel du prophète d'aller vers l'Ouest, il écrit dans son journal, « Nous nous sommes préparés du mieux que nous le pouvions à un long voyage dans une contrée étrangère tout à fait inconnue. Nous avons dit adieu à la vieille ferme familiale et nous avons pris la direction de l'Ouest, sans connaître la destination, nous attendant seulement à ce qu'elle se situe dans l'Ouest sauvage des montagnes rocheuses. » Le 16 juillet 1846, lui ainsi que d'autres hommes vaillants ont répondu une nouvelle fois à l'exhortation du prophète. Ils se sont engagés dans le bataillon mormon et ont marché 3200 km de Council Bluff en Iowa à San Diego en Californie et ont continué jusqu'à Los Angeles. Là-bas, ils ont été libérés du service gouvernemental. Même s'ils ne savaient rien de leur foyer ni de leur famille, ils ont commencé leur marche en direction de la vallée du Grand Lac Salé. Levi Savage a parcouru 2100 km supplémentaires. Le chemin était un terrain chaotique et hostile, mais il est finalement arrivé dans la vallée du lac Salé. Ici, Levi a défriché, a combattu les sauterelles, s'est marié, a eu un fils et a enterré sa femme quelques mois après la naissance de ce dernier. À la conférence d'octobre 1852, 10 mois après la mort de sa femme, lui et plusieurs autres frères fidèles ont été appelés par le prophète à ouvrir une mission d'évangélisation au Siam, la Thaïlande actuelle. Cette fois-ci, ils ont voyagé par équipe et en chariot jusqu'au sud de la Californie et à l'océan Pacifique. Peu de temps après, ils ont pris le bateau de San Francisco jusqu'à Calcutta, en route pour le Siam. Ce qui est écrit dans le journal de Lévi le 29 janvier 1853 nous permet d'entrevoir ce qu'il avait dans le cœur, ce qu'il y avait dans le cœur de ces premiers missionnaires. Il écrit : Notre superbe bateau, poussé par une légère brise, mettait le cap à travers une mer furieuse sur notre lieu de destination, laissant derrière notre pays natal tant aimé. Chacun cherchait son coin pour méditer, et une fois trouvé, songeait au confort de son foyer, aux marques de tendresse de sa femme, de ses enfants ou de ses amis. Mais à présent, il était appelé à s'établir dans les régions isolées du monde. Et pour quelle raison? Pour ramasser de l'or et de l'argent? Ou pour s'assurer les honneurs, le faste et la magnificence du monde? Non, absolument pas. Sinon, pour obéir au commandement du Seigneur de porter le message de la vérité et le salut aux nations plongées dans les ténèbres et la superstition. Peu après, chacun se retirait à son lit de camp pour se reposer. Mais qu'il soit endormi ou éveillé, son esprit continuait à s'attarder sur les réalités du passé et les perspectives d'avenir. À la fin de sa mission, Lévi est rentré chez lui par bateau en passant par Boston, Massachusetts, puis s'est rendu à son lieu de naissance, à Greenfield, en Ohio, et a écrit ce qui suit à son arrivée. « J'ai fait le tour du monde ». Il s'est joint au convoi de charrettes à Bras Willy, à Iowa City, en Iowa, ce qui a marqué le début d'une saga d'une importance éternelle pour lui, sa famille et l'Église. Ses œuvres dans cette épopée ont couronné une vie de sacrifice et de service. De ces pionniers, on retient cette référence. Leur foi et leurs œuvres étaient un phare dans un monde incroyant. Leur service, un modèle que nous devons tous suivre. Nous sommes émus par les paroles du pasteur Frédéric W. Faber. Foi de nos pères toujours vivantes, en dépit des cachots, du feu et de l'épée. Ah, que nos cœurs battent vite de joie à l'écoute de cette expression glorieuse. Foi de nos pères, nous lutterons pour convertir tous les pays à toi. Et par la vérité qui vient de Dieu, l'humanité sera alors vraiment libre. Foi de nos pères, nous aimerons l'ami comme l'ennemi dans toutes nos luttes, et lui prêchant aussi comme sait le faire l'amour, avec des mots gentils et une vie vertueuse. Foi de nos pères, foi sacrée, nous te serons fidèles jusqu'à la mort. Je vous rends témoignage, frères et sœurs, que vous êtes à la jonction de l'histoire. Dieu est Elohim, et il connaît tous ses enfants, où qu'ils soient. Jésus est son Fils bien-aimé, le Rédempteur de toute l'humanité. Joseph Smith, un jeune garçon, a été appelé comme prophète. Et grâce à cet appel, l'Église et le royaume de Dieu ont été rétablis sur la terre. Vraiment, nous sommes bénis de connaître ces choses. Et vous, mes frères et sœurs, vous êtes là à la jonction de l'histoire. Vous venez de royaumes de gloire. C'est un honneur singulier pour vous d'être fidèle à la foi, d'aller de l'avant en faisant de bonnes œuvres. Faites ce que les prophètes disent. Les générations passées s'y attendent. Nos générations sont sauvées grâce à cela. Les générations futures en dépendent. Et le Saint-Esprit vous conduira à chaque pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen.